en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'œuvre ultime, la dernière œuvre, c'était le thème de la journée du livre 2010 de l'Académie nationale de médecine. Canal Académie vous retransmet les meilleurs moments des conférences consacrées aux artistes peintres, musiciens et écrivains. Retrouvez ici le portrait du compositeur Béla Bartók, ou plus exactement le compte à rebours de ses derniers instants de vie, dressé par deux académiciens de médecine mélomanes, Bernard Lechevalier et Jean-Louis Michaud. Bernard Lechevalier est professeur émérite de neurologie. Jean-Louis Michaud est hématologue. Il a publié en 2003 « Solitude Bartók, une leucémie cachée » aux éditions L'Âge d'Homme. Le deuxième portrait est consacré au peintre contemporain Henri Matisse. Là aussi, deux intervenants se succèdent pour évoquer la seconde vie de Matisse après une opération chirurgicale compliquée qui lui laissera des séquelles. Dominique Simusiak, conservateur en chef et directrice du musée Matisse du Cateau Cambrésis, et le critique d'art Pierre Schneider, qui a bien connu Matisse, nous livrent tous deux les fragments de vie d'un homme qui ne cessa de créer jusqu'à son dernier souffle. Mais tout de suite, intéressons-nous à Bartók en compagnie de Jean-Louis Michaud et Bernard Lechevalier.
Comprendre et analyser l'œuvre musicale et la créativité de Bartók introduit nécessairement de devoir étudier et apprécier son mode de vie et les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées. Celles-ci furent dominées par deux facteurs principaux. D'abord, un lourd tribut à la maladie. Deux, des événements circonstanciés. Dès le tout jeune âge, il avait à peine 6 mois, il a été atteint d'une dermatite atopique qui, dans sa symptomatologie d'un prurite atroce, l'empêchait de dormir. Et les lésions disgracieuses, suintantes, l'obligèrent de vivre une vie de reclus. Quelques années plus tard, à l'adolescence, ses études secondaires ont été interrompues par une affection pulmonaire que l'on n'étiquetait pas, comme vous pouvez le croire, qui s'appelle le morbus hungaricus et qui a entraîné aussi des modifications de vie puisqu'il a dû interrompre ses études secondaires. Puis, après quelques mois de repos, a entrepris des études musicales à Budapest et là, lors de sa première année, il a fait une rechute. Cette rechute, qui était bien sûr une tuberculose pulmonaire, avait été étiquetée par certains médecins d'une maladie incurable. Heureusement, d'autres ont été moins pessimistes et après quelques mois de repos en montagne, il a pu reprendre ses activités musicales. Nous y reviendrons parce que vous verrez que ce fut un problème diagnostique particulièrement ardu. Les circonstances de vie de Bartók méritent d'être connues. Il est né en 1881 dans la région du Bana, qui est ici au sud, et il a perdu son père très jeune, qui était directeur d'un institut d'agronomie, et sa mère a été obligée de reprendre des activités professionnelles. Elle était enseignante, et durant toute sa jeunesse, il a été amené à vivre à différents endroits de la Hongrie, pour finir arriver à Pozsony. Alors il y a eu le traité du Trianon, non loin d'ici, qui a d'épaisser la Hongrie. Et en effet, 2/3 du territoire ont été rattachés à différents pays qui entouraient la Hongrie et toutes les régions où il était né, vécu et grandi sont devenues des régions étrangères. Et cela a exacerbé cette tendance nationaliste car ce fut en effet un vrai et pur hongrois. Il a été amené, suite aux événements de 1940 et de l'attache de la Hongrie avec le nazisme, à s'exiler. Et en 1940, il a quitté Budapest pour New York. Et c'est quelques mois plus tard qu'une grippe prolongée a conduit à réaliser une radiographie des poumons par son médecin traitant qui était d'origine hongroise et qui a remarqué des lésions tout à fait impressionnantes. Nous avons pu reconstituer cette image au départ d'un protocole tout à fait remarquable, n'ayant pas pu récupérer la radiographie. Voilà les lésions pulmonaires anciennes de tuberculose, les lésions d'adhérence pleuropéricardique, les nodules calcifiés multiples, et puis des infiltrats pulmonaires qui sont restés l'énigme médicale par excellence. Cela a conduit son médecin traitant à l'envoyer en clinique à New York au Postgraduate Medical School. Et là, le premier examen qui s'est réalisé, c'est bien sûr de contrôler la radiographie des poumons, qui était identique, et de réaliser l'examen du sang. C'était un vendredi, le 8 mai 1942, et là, on a eu l'étonnement de tomber sur des résultats tout à fait inattendus qui sont restés pendant des mois énigmatiques également. Ceci était le vendredi, on a fait faire un contrôle le lundi, et le lundi, on a bien remarqué encore qu'il y avait une augmentation des basophiles sanguins 20 fois supérieure à ce qui est habituel. Et alors pour nous, hématologues, ayant été enseignés par M. Jean Bernard, il n'y avait qu'un diagnostic qui n'a jamais été posé. Ça reste également pour nous un grand énigme. D'autant plus que, avec cette anomalie des basophiles, il y avait également une très forte augmentation des plaquettes sanguines de 3 à 4 fois supérieure à la normale. Et vous savez quelles ont été les conclusions de cette observation? Ça veut dire que les examens sanguins ont été considérés comme inhabituels, mais rien de plus. Et l'on a conseillé au médecin de suivre l'évolution de son malade. Évolution qui a été des plus catastrophiques, au point où Bartok s'est retrouvé quelques mois plus tard à Harvard. Et voyez l'image de Bartok à ce moment-là, il était réellement un homme sorti de Buchenwald. Il pesait encore 39 kilos. Et j'ai eu la possibilité de connaître les conclusions d'une nouvelle observation qui, celle-ci, s'est faite au Mount Sinai Hospital à New York. Et voilà les conclusions. Il s'agit bien d'un état pulmonaire lié à une flambée actuelle des lésions tuberculeuses. Et vous voyez que le diagnostic médical hématologique est également tout à fait erroné, puisqu'ils étiquettent ça d'une polycythémie, alors qu'il s'agit tout simplement d'une leucémie myéloïde chronique. Si ses collègues américains avaient eu la possibilité de lire la presse médicale de 1941, n'oublions pas que nous sommes en pleine guerre, ils auraient pu lire un article tout à fait remarquable de M. Fissinger, qui fut un de nos précédents collègues ici et qui avait décrit exactement la maladie de Bartok et qui l'avait étiqueté de poumon leucémique, chose apparemment qui n'avait pas été reconnue. Cependant, on lui fit un traitement à base de rayons et on l'a envoyé dans un sanatorium. Et il nous raconte son évolution. Cette affection des poumons, comme je vous l'avais écrit dans ma dernière lettre, a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Et puis la maladie a évolué. Bien sûr, elle l'a atteint de nouveau par ses manifestations clinique habituelle. Il reçut des rayons et pendant les périodes d'accalmie, parce qu'il y a eu des périodes d'accalmie, il a eu les plaisirs, et nous aurons l'occasion de l'entendre, d'écrire des œuvres immortelles qui fut son concerto pour orchestre en 1943 et également sa sonate pour violoncelle qu'il avait écrite pour Yehudi Menuhin. L'évolution fut malheureusement normalement défavorable et en 1945, alors qu'il se savait condamné, il a voulu écrire une dernière œuvre qui fut un concerto pour piano dont il espérait qu'il pourrait arriver à son terme et qu'il voulait écrire pour que sa femme bénéficie des émoluments liés à l'œuvre. J'ai eu la possibilité de recevoir du fils de Bartók, qui vivait aux États-Unis, une lettre qui m'a expliqué les derniers jours de son père. Il était dans un état réellement très atteint. Il avait de grandes fièvres et il a terminé avec peine son concerto pour piano en écrivant ces mots, VG, ce qui veut dire en hongrois fin. En effet, c'était sa fin car il a été hospitalisé à nouveau pour y mourir. Monsieur le Chevalier va vous présenter l'aspect musical de cette histoire.
Je vais essayer en quelques minutes de vous parler de la partie musicale de l'œuvre de Bartók, mais pas de toute l'œuvre de Bartók, de ce qu'on appelle la période américaine. En effet, l'œuvre ultime de Bartók, c'est ce qu'a dit Monsieur Michaud tout à l'heure, c'est le dernier concerto pour piano et orchestre qui est dédié à son épouse. Mais cette œuvre terminale est à peine terminée. Cette œuvre-là était précédée de deux autres œuvres vraiment géniales, qui est la sonate pour violon seul et le concerto pour orchestre. Et je vais essayer de répondre à trois questions. Premièrement, quelle est l'originalité de ces trois œuvres, de ce triptyque, pourrait-on dire ? Deuxième question, dans quelle mesure ce qu'a vécu politiquement et personnellement Béla Bartók a-t-il pu influencer sa créativité ? Et troisièmement, qu'en est-il du rapport de ses maladies et de sa production musicale ? Pour ce qui est de la première question, eh bien, l'originalité est grande pour ces trois œuvres-là, marquées, comme on l'a dit, du sceau de l'immortalité. Et le terme déjà de concerto pour orchestre est un terme qui mérite un commentaire. Ça fait appel aux symphonies concertantes de Mozart, que vous connaissez peut-être, et c'est une longue symphonie en cinq parties qui a comme particularité de laisser la parole, si on peut dire, à quelques instruments qui font eux-mêmes, séparément ou ensemble, une petite apparition dans l'orchestre. Et la condition dans laquelle elle a été composée, cette symphonie, ce concerto pour orchestre, mérite d'être appelée, c'est que le grand chef d'orchestre Koussevitzky, qui était à la tête du Boston Symphony Orchestra, est allé au Mount Sinai Hospital et a prié Béla Bartók, qui était là sur son lit d'hôpital, d'écrire cette œuvre à la mémoire de sa propre épouse. Et dans une petite lettre en anglais qui se trouve dans l'encyclopédie de Grove que l'on trouve à la Bibliothèque nationale, heureusement parce qu'elle a 40 volumes, eh bien on lit le texte de Bartók qui dit « Dans cette symphonie, dans ce concerto, j'ai voulu parler de la mort ». Et on ne peut quand même pas s'empêcher de rapprocher ce petit texte de ce que vivait Bartók à ce moment-là. Et le troisième mouvement, ce sont des mouvements lugubres, vraiment lugubres, et qui parlent de la mort, qui font appel à cette notion. Alors qu'entre les deux, eh bien entre les deux, il y a un pied de nez à la mort. C'est ce qu'il a appelé « games of pair », c'est-à-dire un jeu de duo. Et entre deux pièces très très sombres, très lugubres, apparaît un dialogue de basson qui évoque deux bons hommes en train de parler au coin de la rue, là, et puis après un dialogue de flûte, et puis un dialogue de hautbois. C'est tout à fait charmant. Et en tête de ce mouvement, il a écrit « plaisanterie », comme si c'était la pichenette, le pied de nez fait à la mort. Puis le quatrième mouvement, c'est un mouvement qui reproduit une vieille mélodie hongroise, et ça se termine, comme toujours dans les œuvres de Bartók, par un feu d'artifice sonore. Et Bartók a écrit sur ce petit texte, c'est l'assertion de la vie. Alors ce concerto a été donné à Boston par Koussevitzky le 1er décembre 1944, mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il a mis un temps très long à le composer, parce qu'il avait, alors que Bartok composait simplement avec un crayon, un papier et une gomme, il ne faisait pas appel aux instruments pour vérifier ce qu'il écrivait, eh bien, il a mis un temps fou à écrire cela, parce qu'il était véritablement très malade, et cette musique lui a sans doute redonné du courage pour la suite. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième œuvre. La deuxième œuvre, c'est une œuvre qu'on peut qualifier de sublime, au sens que Kant a donné à cette notion de sublime, c'est-à-dire différent du beau, parce qu'elle vous crée des phénomènes physiques, des émotions physiques sur les auditeurs qui écoutent cette œuvre-là. Et son histoire mérite aussi d'être racontée très brièvement. Le grand violoniste Yehudi Menuhin avait été très bon pour Bartok et avait une véritablement communion d'idées artistiques avec lui. Il avait déjà joué des œuvres de Bartok. Il faut tout de même rappeler que quand Bartok est arrivé aux États-Unis, il en était à un opus 124. Il avait composé 124 œuvres majeures. Donc Menuhin lui a demandé à brûle-pourpoint de composer une sonate pour violon seul, dont il serait l'interprète, et qu'il jouerait au Carnegie Hall. Et Bartok, ça c'était en novembre 1943. Mais Bartok n'a pu se mettre au travail qu'en février, tellement il était malade. Et alors là, c'est extraordinaire, il a été envoyé aux Carolines du Nord dans un sanatorium, il s'est trouvé très bien, il était amélioré, et en un mois, il a écrit cette sonate merveilleuse. Merveilleuse, mais d'une difficulté transcendante. Même sans être violoniste, et c'est mon cas, je peux vous dire que la partition est impressionnante, car on se rend compte que c'est une difficulté transcendante. Et véritablement, cette sonate dédiée à Jean-Sébastien Bach, puisque Bach a écrit, comme vous le savez, des sonates pour violon seul, est tout aussi difficile que les fameuses sonates de Bach. Elle se compose d'une chaconne qui explore tout ce que peut donner le violon, et puis d'une fugue absolument extraordinaire, que je qualifierais de dramatique, car elle est véritablement inspirée par la souffrance, et dont vous allez entendre un extrait. Après cette fugue, et on entend ce qu'on appelle mélodie ou monodie, ou encore méditation, qui est un véritable trait, et ça m'a évoqué les dessins de Matisse. Les dessins de Matisse où vous voyez un trait qui reproduit. Et cette mélodie, elle est monodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de double corde ou quoi que ce soit. Vous allez en entendre un court extrait seulement à cause du temps. Alors, après cette méditation, cette monodie, il y a un final qui est comme tous les finales de Bartok, c'est-à-dire un déchaînement sonore qui rappelle sa première période et qui illustre bien le terme d'insertion de la vie qu'il a donné au dernier mouvement du concerto. Alors, on arrive maintenant à l'œuvre ultime stricto sensu. Comme l'a dit M. Michaud, cette œuvre-là, elle a été composée par Bartok lui-même sur son désir pour assurer une sorte de retraite à sa femme, puisqu'elle devait en avoir les droits. Et sa femme était une pianiste professionnelle, mais c'était une pianiste qu'il a écrit lui-même. Il a écrit qu'elle avait eu du mal à maîtriser son deuxième concerto. Il faut dire que son deuxième concerto, écrit en Hongrie, est considéré comme l'œuvre la plus difficile de tout le répertoire de piano par des professionnels qui sont habitués à la musique contemporaine. Alors donc, il lui a écrit, alors qu'il était très malade, en 2 mois, un concerto inspiré du concerto de Grieg. C'est un concerto qui est beaucoup plus mélodique que le deuxième concerto. Ce troisième concerto est presque un peu romantique et il est animé, comme dans les œuvres de Grieg, par deux souvenirs, la nature et le folklore. Ce concerto a été terminé le 22 septembre 1945, alors que 4 jours plus tard, il mourait. Et c'est ce qu'on vous a dit, il écrit le mot « fin » à la dernière mesure. En fait, il restait 17 mesures à orchestrer, ce qui a été fait par un de ses élèves. Nous allons vous faire entendre le début de ce concerto, qui est un début tout à fait beethovenien, avec un thème très énergique. Et alors après, vous allez entendre une chose absolument admirable, c'est l'Andante religioso, qui est un dialogue entre le piano et l'orchestre, et qui rappelle beaucoup le 4e concerto de Beethoven pour piano et orchestre, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et ce qui est étonnant, je ne l'ai pas pu le mettre à cause du temps, mais ce qui est étonnant, après cet Andante religioso, eh bien, il y a le retour à la nature. Il a enregistré des petits oiseaux, comme fera 20 ans plus tard Olivier Messiaen. On entend des xylophones, on entend un piccolo, etc. C'est la nature qui réapparaît après cet Andante religioso. Et puis le final, feu d'artifice à nouveau, avec une petite fugue virevoltante à la Mozart, c'est-à-dire la clarté, la vivacité, la sérénité. Alors vous allez entendre les 3 parties de l'œuvre ultime, le concerto numéro 3 pour piano et orchestre. Alors maintenant, j'ai un extrait très bref du final. Final pétaradant, si on peut s'exprimer ainsi, comme tous les finales de Bartok, mais avec une petite fugue virevoltante au milieu. Un très très bref extrait. C'est le final du troisième concerto, c'est donc les dernières mesures écrites par Bartok, et ce n'est pas la sonate pour violon. Vous avez entendu. Alors, au terme de tout cela, est-ce que les événements que Bartok a vécu, son exil aux États-Unis, je vais citer aussi le nom d'un musicien français qui l'a beaucoup aidé, c'est Darius Milhaud, qui était lui aussi exilé. Alors, est-ce que cet exil a pu influencer son style? La réponse est oui. La réponse est oui, et c'est le concerto pour orchestre qui a été l'œuvre charnière. Avant, quand il était en Hongrie, il écrivait une œuvre basée sur le folklore, très brutale, un peu violente aussi, avec beaucoup de dissonances, des rythmes heurtés. Quand il était aux États-Unis, les musiciens aimaient sa musique, mais le public n'appréciait pas cette musique hongroise. Et il a dû changer de style, il a pris ce style mélodique. Alors la deuxième question, c'est celle-là, est-ce que la maladie a influencé ? La réponse est oui. Elle a influencé sa musique parce que sa productivité a été hachée par le fait qu'il était tout le temps hospitalisé, mais aussi, elle a influencé ses sentiments, ses passions, sa conscience. Et je vais vous citer 5 états de conscience que j'ai essayé de retrouver dans son œuvre. Cet état de conscience numéro 1, c'est la mort rôde. Et on retrouve ça dans le premier concerto pour orchestre. La deuxième chose, c'est la souffrance physique. Il me semble que la fugue que vous avez entendue de la sonate pour violon seul, c'est comme autant de lames de rasoir qui vous rentrent dans le corps, à moins que ce soit une marque d'agressivité vaincue. Le troisième état de conscience, eh bien, c'est l'angoisse transformée en sérénité. Il me semble que l'andante religioso, ainsi que la méditation, en sont des exemples. Et le quatrième état de conscience, c'est la remémoration d'un monde perdu, c'est-à-dire la Hongrie, avec le folklore, la nature. Et enfin, le cinquième état de conscience, c'est l'assertion de la vie qui devrait toujours triompher. Mais tout cela, ça n'est pas une musique à programme. C'est implicite dans l'œuvre de Bartok. C'est même inconscient. Mais on pourrait dire, je pense, ce qui a été dit de Mozart, sans jamais vouloir parler de lui-même, c'est toujours de lui qu'il nous parle.
Je ne vais pas parler de Matisse ultime, mais de Matisse une seconde vie. Vous savez tous connu ce thème-là à travers l'exposition qui a eu lieu au musée du Luxembourg il y a quelques années. Et parce que Matisse va véritablement vivre quelque chose de tout à fait, pour lui, extraordinaire, vous allez voir, à partir de l'opération qu'il va subir en 1941. Et je vais essayer surtout de vous citer le plus possible Matisse. D'abord parce qu'il écrivait très bien, il parlait très bien. Et ensuite, parce que vous aurez quelque chose de plus juste, peut-être, de plus exact. Donc Matisse, eh bien, au début de la guerre, parce que finalement on est dans la même époque que celle qu'on vient d'entendre, avait donné des signes d'occlusion intestinale dès le mois de juin 1940, et est hospitalisé d'urgence à la clinique Saint-Antoine de Nice, puis transféré à la clinique du Parc à Lyon, où il sera opéré le 10 janvier 1941. Il faut savoir que là, on le condamne. On pense que les médecins disent qu'il ne va pas pouvoir s'en réchapper. Et lui demande 6 mois. Il dit à ses médecins, j'ai pas fini, donnez-moi encore 6 mois. Vous allez avoir ses propos exacts après, vous allez voir. Et donc, il va avoir une longue convalescence, puisque ça va durer jusqu'au mois de mai, ce qui est quand même assez long. Et qu'est-ce qui fait qu'au lieu de basculer, je dirais, de mourir, tout simplement, il a 72 ans, 71 ans, qu'est-ce qui va faire qu'en réalité, il va encore vivre jusqu'en 1954, c'est-à-dire encore 13 ans. Alors, de quoi l'a-t-on opéré? Je ne suis pas médecin, c'est votre problème. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Ce qui compte par contre, c'est la façon dont lui va vivre sa maladie et dans la façon dont il va la sublimer et aussi dont finalement il va passer à travers tout ça sans que jamais, jamais ça n'apparaisse dans son œuvre. Il raconte en 1952, donc 10 ans plus tard, il y a plus de 10 ans, j'ai subi une difficile opération, si difficile que mes médecins m'avaient abandonné. Il est foutu, disaient-ils entre eux. Ils me dirent aussi, avec d'autres mots bien sûr, le seul qui puisse encore vous sauver, c'est vous-même. Un seul conseil, mangez, mangez. Je ne me suis pas laissé aller durant ces quelques heures si difficiles, et ainsi j'ai gagné la partie. Enfin, les quelques heures durent quand même jusqu'au mois de mai. Et ensuite, il va avoir des problèmes de bronchie, des problèmes de foie, des problèmes, enfin énormément d'autres problèmes. De cette maladie dont je me suis remis que lentement, j'ai tiré une importante leçon pour moi qui détermine ma vie depuis lors. Alors là, écoutez, parce que comme leçon de vie, c'est génial. Les médecins t'ont abandonné, me suis-je dit. Ils étaient convaincus que ta vie était à son terme. C'est pourquoi tout le temps que tu vivras à partir de maintenant, c'est un cadeau que la vie te fait. Chaque année, chaque mois, chaque jour. Ainsi, à partir de maintenant, tu ne feras que ce qu'il te plaît, sans penser à ce que les autres attendent et exigent de toi. Ce que j'ai fait avant cette opération sont toujours trop l'effort. Avant ce temps, j'ai vécu avec la ceinture bouclée. Ce que j'ai créé après, c'est moi-même que ça représente, libre et détaché. J'ai appris cette seule vérité. Il faut se donner entièrement, avec toutes les forces, avec toutes ses faiblesses. Oui, notre force réside souvent dans nos faiblesses, ou dans ce que nous regardons comme nos faiblesses, et qui est souvent notre force. Alors je pense qu'on a tous à prendre quelque chose là-dedans. S'il va s'en sortir, effectivement, c'est aussi parce qu'il est secondé par une femme absolument remarquable, qui est une émigrée russe, qui va rentrer à son service en 1932, qui va être modèle, et Matisse va pratiquement exclusivement Lydia d'Alektorskaya de 1935 à 1939, puis elle va être à ses côtés pour le seconder, pour faire qu'il passe tout son temps dans sa création, pour qu'il puisse récupérer de sa fatigue, qu'il puisse dormir, parce que c'est un grand insomniaque, qu'il puisse trouver peinture, tout ce dont il avait besoin, y compris pendant la guerre, qu'il puisse partir à Paris tous les ans, comme il le faisait, etc. Et Lydia va être un élément fondamental de cette seconde vie. Elle va écrire 2 livres importants, et voilà, je la cite. Elle dit « Il est arrivé à des critiques, et non des moindres, d'affirmer qu'après l'opération qu'il avait subie en janvier 1941, Henri Matisse n'avait presque plus pas. Et que s'il s'était tourné vers les gouaches découpées et la décoration de la chapelle de Vence, c'est parce que sa santé l'obligeait à garder le lit et qu'il ne pouvait plus peindre. » Alors vous allez voir un peu comment ces deux affirmations sont aussi erronées l'une que l'autre. Ceux qui s'abusent ainsi ne connaissent pas la ténacité de Matisse et sa passion pour la peinture. Il est exact qu'à partir de 1942, à cause des séquelles de son opération, il fut en effet par période difficile à Matisse de marcher. Elle souligne, de marcher. Mais la peinture de chevalet n'exige pas l'usage des jambes. Dans son fauteuil roulant, Renoir a peint jusqu'à ses derniers jours. Matisse n'a pas cessé de peindre pour autant. Tout simplement, il organisait alors son mode de vie, comme en conformément à sa situation. La production annuelle de Matisse en peinture demeura jusqu'en 1948 plus ou moins égale à celle des années précédentes, une 15aine de toiles par an en moyenne. Et à ça, il faut ajouter des centaines de dessins, des centaines de gravures pour des livres, etc., etc., jusqu'en 1948. Voilà, donc une des peintures, il y en a plusieurs, je crois, une peinture que Matisse a fait de Lydia entre 1935 et 1939. Il a fait parmi les plus belles peintures. Voilà, Matisse est en train de dessiner Lydia, photographiée par Cartier-Bresson, à Vence, dans sa maison Le Rêve. Évidemment, c'était au musée Matisse, vous l'avez compris. Et voilà Matisse en train de travailler. C'est-à-dire que là, le modèle est dans un fauteuil, le modèle pose, le modèle... Et Matisse va faire des peintures absolument en quantité aussi importante qu'avant sa maladie. Et quand on lit ce qu'il écrit à son ami Rouvert, où apparemment, effectivement, il a plein d'ennuis de santé, eh bien, ça n'apparaît jamais dans son œuvre. Voilà un tableau que nous avons au Cato, de ce modèle, avec, dans ce manteau de fourrure. Et Lydia, à nouveau, en 1946. Et voilà ce que Matisse en dit. Il écrit à Rivert, à Rivert. Pourquoi vaincre toutes ces difficultés pour travailler? Pourquoi? Je sors d'une séance de peinture particulièrement pénible, écrit-il à Rouvert. Je pense, comme tu es la sagesse même, Rouvert c'est un poète, un ami très proche de Matisse à qui il écrivait presque tous les jours. Même lorsque tu m'expliques pourquoi tu ne travailles pas, pour moi je reste un vieux fou, comme Madame Paul Cézanne désignait son mari. On m'a dit que Madame Pissarro disait de même de son mari. Ces femmes d'extraction modeste avaient servi leur mari avec leurs modestes moyens, en jugeant leurs héros comme s'ils avaient été de simples menuisiers qui se seraient entêtés à construire des tables avec les pieds en l'air. Je suis donc un vieux cinglé qui veut recommencer sa peinture pour mourir enfin satisfait, ce qui est pourtant impossible. On est en 47. Donc, comme Matisse est né un 31 décembre 69, enfin, donc c'est très facile, vous rajoutez 30 ans à 47 et vous voyez l'âge qu'il a. Hein. Je suis donc un vieux cinglé qui veut recommencer sa peinture pour mourir enfin satisfait, ce qui est pourtant impossible. Voilà, mourir satisfait. Voulant faire une peinture en rapport avec mes dessins, ceux qui me viennent directement du cœur, tracés avec la plus grande simplicité, je me suis engagé dans une route bien pénible, qui me semble démesurée à cause du peu de temps que mon âge m'accordera. Et pourtant, pour être d'accord avec moi-même, je ne puis faire autrement. Avec la sorte de rapport de couleur que je suis porté à employer pour rendre ce que je sens, dégagé de l'accidentel, je me trouve à représenter les objets dépourvus de lignes fuyantes, etc. Je veux dire, vue de face. Presque les uns près des autres, rattachés par eux par mon sentiment, dans une atmosphère créée par les rapports magiques de la couleur. Bon, je vous cite un petit passage, c'est vraiment ce qu'il écrit à Rouvert, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire. Il a une idée dans la tête, et cette idée, il va la pousser jusqu'au bout. Et c'est vrai que Lydia, qui est le modèle ici, va jouer un rôle fondamental. Et Matisse a calligraphié pour Lydia. Quand Lydia de Lectorskaya s'approche, je suis guérie. Quand Lydia de Lectorskaya s'éloigne, je suis alanguie. Bonté divine, serait-ce ce qu'on appelle le charme slave qui agit? C'est tout simplement parce qu'elle est bonne. Mais quel caractère, avec l'accent du midi. Madame Lydia est un ange, un vrai, j'en suis certain. Voilà, c'était aussi ce rapport assez tendre et amusant qui pouvait entretenir l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, Matisse dans son lit, Matisse qui avait un fauteuil, il était installé dans une sorte de demi-fauteuil dans son lit, il avait des tables pour dessiner, etc. Mais il n'était pas tout le temps dans son lit, vous l'avez vu tout à l'heure, dans un fauteuil en 1944 en train de peindre un modèle. Bien entendu, il y avait des périodes très où il était dans son lit. Mais finalement, on n'en sait rien. On ne sait pas quand est-ce qu'il a passé des moments dans son lit, à part les lettres qu'il envoyait à Rouvert, où là, on savait qu'il était malade. Mais sinon, dans son œuvre, ça n'apparaît jamais. Et la grande œuvre, sa grande œuvre, eh bien, va être la chapelle qu'il construit, qu'il réalise pour les Dominicaines de Vence, une chapelle dans laquelle il va consacrer 4 ans. C'est-à-dire qu'en 1948, condamné comme il l'avait été par les médecins, quand même dans une santé pas très florissante, ayant du mal à se déplacer, mais ayant tout son pouvoir de création, il réalise enfin ce qu'il a dans la tête depuis toujours voulu faire, c'est-à-dire des œuvres monumentales. La dernière œuvre monumentale, ça a été la danse pour la Fondation Barnes. Il attend, après la guerre, désespérément, que l'État lui donne même des salles des fêtes, même le Parti communiste, une salle, n'importe quoi, du moment qu'il ait des murs grands, de l'espace, pour réaliser une œuvre monumentale, c'est-à-dire aller beaucoup plus loin encore que ce qu'il avait fait jusque-là. Et dit Lydia, toujours, depuis des années, il espérait que quelqu'un viendrait lui demander de décorer une salle de foyer culturel, par exemple. Mais personne n'en avait eu l'idée. Et soudain, on lui suggéra de créer une chapelle, de l'édifier dans tous ses détails d'architecture et de décoration. Il s'est pris avec du projet, avec toute son intégrité. Alors, à ce moment-là, évidemment, ça va demander une dépense physique réelle, une activité effective incomparablement plus grande que celle que demandent les tableaux de chevalet. Et ce fait, eh bien, vous pouvez le voir dans de nombreuses photos. Voilà l'intérieur de la chapelle pour lequel Matisse va faire quantité d'études. Donc voilà l'atelier dans lequel il travaille. Il va créer un escabeau et une estrade pour mettre sa chaise, pour faire des grands dessins muraux, pour faire des vitraux à taille réelle. Il va travailler dans le monumental. Alors, vous voyez, le vieillard impotent qui ne peut plus bouger, etc. Ici, c'est un dessin du Saint-Dominique qui est derrière l'autel et qui est un des points d'aboutissement de ses recherches dans le portrait où arriver à tracer un ovale sans yeux, sans bouche, sans nez, sans aucun signe distinctif qui arrive à ce dessin d'une pureté extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a atteint quelque chose d'ultime dans ses recherches. Donc, la chapelle, le Saint-Dominique qui est sur la droite, le vitrail sur la gauche, qui est derrière l'autel. Donc, évidemment, vous êtes tous très invités à aller voir cette extraordinaire chapelle qui se trouve à Vence, chapelle de Matisse qui est à Vence. Voilà, encore Matisse, grimpé sur un échafaudage. Alors, il faut que je vous dise, les œuvres en question couvrent les murs où trône au centre un assemblage de caisses, des petites et des grandes, qui permettaient à Matisse d'avoir une vue plongeante sur les panneaux de céramique étalés par terre, ou bien pour faire les grands dessins sur les murs. Et pour chaque modification du dessin ou pour une retouche, il en descendait et déchaussait, marchait en chaussettes à même les carreaux de céramique, un long pinceau à la main, préalablement trempé dans les mailles liquides, raconte Lydia Dektorskaya. Que dit-il au sujet de ses dessins muraux ? Il dit, vous allez voir, pour quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer, qui était, évidemment, le fait de ne pas bouger avait fait grossir, le fait qu'il avait une éventration, quelque chose comme ça, faisait qu'il avait du mal à se déplacer. Eh bien, il dit, je veux faire un visage qui soit typiquement dominical sur le portrait de Saint-Dominique. C'est du trapèze volant, ces dessins à faire sur le mur. C'est-à-dire que Matisse fait du trapèze volant, vous comprenez ça. Ces dessins-là, il faut qu'ils vous sortent du cœur. C'est un sentiment que je dois exprimer lorsque je dessine un ovale. Il dépend de mon état à ce moment-là. Et à mesure que je fais des figures connues, passe en moi. Le 2 juin 49, au frère Essiguier. Le frère Essiguier raconte, il a fait un Saint-Dominique au trait noir de 1,20 m de haut. Ça lui a pris 1h30. Il était très fatigué, me dit Madame Lydia. Ce Saint-Dominique, un peu plus loin, c'est un saut périlleux à exécuter. Le dessin devra partir, se développer comme une chanson, dit-il à Lydia. Regardez les murs qui vous entourent. Comment peut-on faire de l'art sans passion ? Il n'y a pas d'art. L'artiste se domine, plus ou moins selon les cas, mais c'est la passion qui motive son œuvre. Quel est le moteur, là ? Le moteur, c'est toujours le même chez Matisse. C'est son émotion, c'est la passion, c'est le fait qu'il veut aller jusqu'au bout et atteindre une sorte de sublimation de ce qu'il fait. L'angoisse, elle n'est pas perte, parce que l'angoisse, il était submergé par l'angoisse, notamment la nuit, quand il devait commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, elle n'était pas pire aujourd'hui que ce qu'elle fut pour les romantiques. Il faut dominer tout cela, il faut être calme, et l'art ne doit pas inquiéter ni troubler, mais il doit être équilibré, pur, tranquille, reposant. C'est-à-dire que son angoisse ne doit jamais passer dans son œuvre. Il confie à Gaston Dill de garder par devers moi tourment et inquiétude pour ne transcrire que la beauté du monde et la joie de peindre. Et au père couturier, on dit que tout mon art vient de l'intelligence. Ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par passion. Si bien que ma chapelle n'est pas « frère, il faut mourir », c'est au contraire « frère, il faut vivre ». Il y a des gens qui disent qu'ils voudraient recommencer leur vie, mais pas moi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne voudrais pas recommencer. Et pendant ces années, donc en 50, je vous montre quelque chose qui est au musée Matisse, c'est ce plafond sur lequel il a dessiné ses trois petits-enfants qui étaient venus le voir le jour de son anniversaire, de ses 80 ans. Vous imaginez ce que c'est que de dessiner avec une canne à pêche au plafond, avec un fusain emmanché dans la canne à pêche. C'est autrement plus compliqué que de tenir un pinceau. Je tiens à le souligner. Et il dit, eh bien voilà, mes petits-enfants sont toujours avec moi. Je les ai dessinés de façon à ce qu'ils soient toujours avec moi. Et on a ces extraordinaires dessins, là aussi d'une liberté extraordinaire. Parce que ce que gagne et ce que veut Matisse, c'est trouver cette liberté. Là, une sculpture dans les années 51 et l'arbre monumental qu'il dessine sur des carreaux de céramique pour la salle à manger de Thériade. Cet arbre qu'il va faire après avoir terminé la chapelle, toujours dans l'attente que l'État lui commande des réalisations publiques. Il n'y en aura pas, il n'y en aura qu'un, le vitrail qu'il va donner à l'école maternelle du Cateau. Et par contre, il va peindre ce grand arbre pour la petite salle à manger de 9 mètres carrés de son ami Thériade à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Imaginez, donc, il a 3 mètres d'envergure. Et donc, le Matisse, soi-disant un peu tant, eh bien, il domine toute la situation. Voilà l'acrobate dont il va se faire toute une série. Et l'acrobate, c'est le peintre. Et autres aventures extraordinaires qui vont être les papiers découpés, c'est-à-dire que Matisse va tailler à vif dans la couleur, retrouvant la taille directe des sculpteurs, trouvant la liberté de la couleur qui n'est entravée ni par le dessin ni par une autre couleur, avec ses papiers découpés monumentaux. Voilà, il dit « une paire de ciseaux est un instrument merveilleux », dit-il. « Et le papier que j'utilise pour mes découpages est magnifique ». Il prit le papier bleu. « Touchez-le donc, » dit-il à son interlocuteur. « Je pris le papier. Il était presque du carton. Un papier qui offre une résistance aux ciseaux. » Parce que là aussi, on a dit qu'il avait utilisé la paire de ciseaux parce qu'il ne pouvait pas porter un pinceau. Alors un pinceau, vous voyez le poids d'un pinceau, mais une paire de ciseaux de couturière qui fait 2 kilos, pas tout à fait la même chose. Donc c'était pour vous donner cette difficulté musculaire de l'utilisation des ciseaux. Vous avez raison, j'ai fini par le trouver après de longues recherches concernant le papier. Travailler avec des ciseaux dans ce papier est pour moi une occupation dans laquelle je peux me perdre. Il attrapa une feuille de papier, tailla dedans, hésita, réfléchit, ce qui lui fit fermer l'œil gauche et découpa ensuite une ligne ondulée jusqu'à ce qu'une partie du papier tombe sur la table pour me montrer ainsi le processus du découpage. Que je puisse me perdre dans cette occupation, je l'ai encore expérimenté hier. Il a 80 ans, il l'expérimente, il vit quelque chose de complètement nouveau. Il va faire des réalisations. Ça, c'est un vitrail qui fait 2 mètres de haut. Là, un papier découpé monumental, ça fait 5 mètres de long. Et il va faire des réalisations de 10 mètres de long. Que je ne puisse me perdre dans cette occupation, je l'ai encore expérimenté hier. Le pédicure est venu pour m'enlever de la corne que j'avais à un de mes ongles de pied. C'est pour vous, hein, ça. Cela mérite toujours. Pendant qu'il procédait à cette opération pour me divertir, j'ai travaillé avec mes ciseaux et je l'ai oublié. C'est seulement lorsqu'il a pris quand je me suis souvenu de lui. Je l'ai oublié, c'est-à-dire que quand Matisse travaille, eh bien effectivement, il a oublié tous les problèmes physiques qu'il peut rencontrer. C'est fini, la maladie et tout, tout est oublié. Avant, oui, l'angoisse est là, présente. Oui, la maladie est présente. Et puis, quand il travaille, c'est terminé. Et pour terminer, eh bien, je vous mets une photo du musée, bien sûr, en vous invitant tous à venir. Ce n'est qu'à 2 heures de Paris. Et en vous citant son œuvre ultime, c'est son œuvre ultime, hein, puisque Matisse l'a créé 2 ans avant sa mort, en 1952. Il a créé son musée dans sa ville natale, au Cateau-Cambrésis. Et il envoya un message à sa ville natale, dans lequel il a dit « C'est dans la création de la chapelle de Vence que je me suis enfin éveillée à moi-même et j'ai compris, alors je vais parler lentement parce que ça c'est à méditer, que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. Je n'aurais donc été qu'un médium. »
C'est un chef-d'œuvre qui a été produit tard dans la vie. Ce chef-d'œuvre serait difficile à trouver. Heureusement que Matisse lui-même a fait ce choix pour nous. Le 12 décembre 1952, il écrit à son fils Pierre à propos d'une immense gouache découpée, achevée peu de temps avant sa mort, grande décoration au masque. Elle est achevée en 1952. Et il écrit à Pierre, « Je crois que c'est mon chef-d'œuvre. Mais ne nous réjouissons pas trop tôt, ni trop vite. À la même époque, Matisse répond à Maria Luth qui l'interroge. De la joie de vivre, j'avais 35 ans. À ce découpage, j'en ai 82. Je suis resté le même. Sauf que le même, c'est en l'occurrence la remise en cause permanente de l'équilibre qu'il croyait avoir trouvé. Il s'en plaint à Gertrude Stein à l'époque. La peinture est une chose bien difficile pour moi. Il y a toujours cette lutte. Ce que Gertrude Stein résumera magnifiquement, Matisse, un qui exprime avec grandeur quelque chose qui lutte. Pour comprendre pleinement la nouveauté de l'œuvre ultime, qu'est la grande décoration au masque, il faut se laisser porter par la logique irrésistible des problèmes et des solutions qui s'est proposée à l'artiste le long de ce chemin. Et je me bornerai à en évoquer en raccourci quelques-unes. Chauffé à blanc par le soleil, la couleur s'enflamme, alors que le dessin se replie sur sa noirceur originelle. Surpris, Matisse s'en ouvre à Signac. Loin de s'accorder, couleur et dessin, dit-il dans sa lettre, et je le cite, « lui paraissent totalement différents l'un de l'autre, et même absolument contradictoires. » Ce conflit le poursuivra sous des formes diverses jusqu'au terme de sa carrière. Couleur et dessin, taches et lignes sont inconciliables. Pour survivre, ils se séparent. À l'éblouissement fauve, Matisse oppose un art qui accorde la priorité à la ligne et au noir, la gravure. Elle prend la relève de la peinture quand celle-ci se fait torrentielle, comme la sculpture la remplace quand elle renonce à l'épaisseur. Cette séparation créatrice ne signifie pas que Matisse passe sans regret de l'un ou de l'autre de ses éléments essentiels. Faute de pouvoir créer des doublons tout au long de sa vie, L'une s'abandonne à la couleur, la première, c'est le jeune marin 1, et l'autre se range dans les schémas du dessin, c'est le jeune marin 2. Admirable tableau, qui néanmoins avoue l'impossibilité de réussir l'unité à laquelle Matisse aspire. Mais que craint au juste de la couleur celui que Cross avait appelé le follement anxieux ? Eh bien, c'est qu'elle déborde du lit que lui a creusé le dessin et qui la rendait lisible. Privée du don de mimésis, elle ne ressemble plus à rien. Vous avez là quelques spécimens de ce chaos qui pointe. Matisse a dû se dire plus d'une fois, pour la mort du ciel, pas le chaos. Ce n'est d'ailleurs pas Matisse qui s'est écrié de la sorte, mais Jackson Pollock, un demi-siècle plus tard, en entendant un visiteur prononcer le mot « chaos » à la vue d'une de ses premières toiles abstraites. La réponse était, je pense que vous la connaissez, « For God's sake, not chaos ». De fait, Matisse est l'un des premiers, si ce n'est le premier. Oui, je vois que vous avez deux exemples donc de ces toiles qui sont emportées par la couleur vers une difficulté à se laisser déchiffrer. Matisse est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à s'être confronté à ce désastre, au point que Maurice Denis avait jugé bon de le rappeler à l'ordre. N'oubliez pas que la peinture est avant tout un art d'imitation. Matisse n'en disconvient pas, mais il ne peut s'empêcher d'être attiré par l'ennemi inconnu. Au fond, il n'y a qu'à copier, écrit-il à André Marchand, et ceci en 1947. Au fond, mais au cours du travail, si vous êtes devant un paysage ou un personnage, un bouquet de fleurs, n'importe quoi, alors intervient la révolte. Bref, à bas la mimésis. Mais alors il ajoute, tout de même, ce serait bien si le tableau et son modèle, paysage ou pourpre, se ressemblaient un peu. C'est qu'en se laissant conduire, c'est son mot, par la couleur, il renoncerait à la lisibilité de l'œuvre, au sens. Ceux qui l'ont connu, jeunes, ont raconté qu'il parsemait ces discussions de l'expression « suis-je clair ?». En anglais, cela donne « do I make sense ?». Et si vous retraduisez en français, cela donne « est-ce que je fais sens ?». La mimésis le fait, mais au profit d'une ressemblance obtenue grâce à un réalisme fondé, selon Matisse, sur les détails réalistes, désormais discrédités et particulièrement difficiles à simplifier, c'est son expression, s'agissant d'un de ses sujets préférés, le portrait. Matisse pense résoudre le problème en substituant ou en combinant le signe qu'on lit à l'image qu'on contemple. Cette opération exige un médium autre que la peinture. La couleur sera supprimée, le noir régnera. La flaque et la tache se verront remplacées par le trait, la ligne, dans le champ d'opération qu'est le dessin. Le dessin linéaire, vous en avez un bel exemple, je pense, pour Matisse, n'est pas le serviteur de la peinture, mais le gardien du sens. Lorsque le critique Estienne interroge le peintre en 1909, il vient de créer la musique et la danse. Il est au sommet de son art pictural de première manière. Pourtant, dans sa conversation avec Estienne, ce n'est pas à la peinture qu'il rend hommage, mais au dessin linéaire. Je le cite, « Il s'agit d'apprendre et peut-être de réapprendre une écriture qui est celle des lignes. » Ce n'est pas là un propos en l'air, mais une profession de foi qu'il faut prendre à la lettre, littéralement, c'est le cas de le dire. Il ne parle pas de ligne d'écriture, mais d'une écriture de ligne. Il a compris, en effet, que les lignes peuvent montrer les signes et le lire les formes, et pressent, grâce à cette découverte, leur capacité de sauver ce sens avec lequel son siècle, à mesure qu'il avance, tente à perdre le contact. Près d'une quarantaine d'années après son entretien avec Estienne, Matisse passera des jours et des semaines à remplir des pages de lignes d'écriture, sous le regard étonné d'ailleurs de Louis Aragon. Je rappelle en passant que la parenté de l'écriture et de la gravure n'est pas une invention de Matisse. En grec classique, graphein signifie à la fois écrire et graver. Le spectre du non-sens n'incite pas Matisse à renoncer à la couleur, mais à la compenser par le recours à son contraire, le noir, autrement dit le dessin, mais un dessin qui se refuse au débordement de la couleur et se borne à la ligne. Néanmoins, ils ne renonceront pas complètement à sa fonction traditionnelle, qui est de servir de laboratoire d'essai au tableau. Ce qui l'incite à continuer, c'est d'avoir recours à la couleur et à la tâche. Or, il existe un antidote plus strict à la couleur et, de par sa technique, plus enclin à se limiter au trait, la gravure. Telle que Matisse la pratique à partir du moment où la couleur l'assaille, c'est limiter au noir et à la ligne et se refusant, à quelques magistrales exceptions près, à ce qui faisait sa mauvaise réputation depuis l'époque de la Croix. Pratiquée par Matisse, elle devient un art autonome auquel il consacre un temps considérable, 829 estampes en témoignent, sans compter près d'une centaine de livres illustrés parallèlement à ses campagnes picturales. « J'ai toujours voulu faire deux choses en même temps », a-t-il dit. Il aurait été plus juste et plus impensable encore qu'il dise « J'ai toujours voulu faire deux choses incompatibles en même temps ». Je suis tenté de penser que c'est toute la carrière du peintre qui s'explique par le besoin de conflits et de résolutions successives. Aussi, j'aimerais revenir au rapport de Matisse à l'écriture et aux écrits. Leur importance est, rappelons-le, capitale à ses yeux. Son premier tableau représente un livre. Illustrer des livres, c'est s'approprier le sens dont ils sont les gardiens. C'est se les incorporer d'autant plus étroitement que leurs textes correspondent soit à Mallarmé en premier, Joyce, Ulysse ensuite, Ronsard et les Charles d'Orléans, les poésies, et surtout, ne pas s'y faillir de Monterland à sa propre pensée au goût et à son expérience. Et plus étroitement encore, si le peintre parvient à substituer au caractère de l'imprimé ses propres lettres écrites à la main, au point qu'il s'en croit l'auteur, ce que Matisse deviendra effectivement avec Jazz, dont il est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Ainsi s'explique le membre de phrase qui conclut les tirades. En effet, ce que je voulais dire, c'est que Jazz est la maquette de la chapelle de Vence. Et c'est ce que nous montrons ici. À gauche, vous avez deux face à face qui sont également pour le pape et pour le livre et pour l'architecture. À gauche, la couleur. À droite, le noir et blanc. Or, ceci est la formule de Jazz, dont il est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Ainsi s'explique le membre de phrase qui conclut cette tirade sur l'écriture qui est celle des lignes, cet entretien avec Estienne il y a déjà de longues années, et qu'on ne cite jamais parce qu'elle semble incompréhensible, mais je pense qu'on la comprend dans le sens de cette similarité, de ce passage, de cette considération de Jazz comme la maquette de ce que sera la chapelle de Vence. Je le cite, « Ensuite, après ces écritures de lignes, ensuite et après nous, probablement, viendra la littérature. » Matisse, on le voit, s'est montré trop modeste. En effet, Jazz se lit comme le plan, comme la maquette architecturale et décorative de la chapelle des Dominicaines de Vence. Un mur de vitraux colorés fait face à un mur d'images et de textes, cela dépend du point de vue, et de textes inscrits en noir sur le fond blanc des céramiques. Pour expliquer à Monterland la raison du retard de leur livre Pasiphae, Matisse évoque le retard pris par, et je le cite, l'architecture du livre. Et ce face-à-face, commencé en 1947 et achevé en 1952, moins de 2 ans avant la mort de l'artiste, va être repris avec des variantes dans nombre de gouaches découpées ou de figures humaines noires qui s'intercalent dans des fonds végétaux de couleur. Il propose à son ami Thériade, « Ce qui m'intéresse le plus, a-t-il dit, ce n'est ni le paysage, ni la nature morte, ni c'est la figure. » Si modeste que soit cette déclaration, elle soulève un problème majeur. « Où il y a un homme, il y a un espace », dit Aristote. Traduit en termes picturaux, cela donne « toute figure implique un fond ». Vouloir que des êtres humains soient ressentis comme réels, des portraits, exige qu'ils soient ressemblants. Ils ne pourront l'être que si l'espace qui les accueille appartient lui aussi au système perspectif, autrement dit qu'il ne soit qu'un arrière-plan exigu, un étroit décor de théâtre. Or, à cela, Matisse répugne. Plus encore que les figures, c'est l'espace qui le préoccupe, c'est à l'espace qu'il aspire de plus en plus à mesure que le temps passe. Mais attention, ce qu'il veut, ce n'est pas de travailler sur ou avec de grands espaces. Ce qu'il lui faut, ce sont des petits espaces, des espaces trop petits, afin qu'il puisse les agrandir. Pas d'Augusta sans Angusta. Il fallait surtout que je donne dans un espace limité l'idée d'immensité, note-t-il à bord du petit avion qui le transporte de Londres à Paris en 1936. J'ai élargi l'espace, écrit-il à Verdet en 1952. Pour élargir l'espace, il faut d'abord que l'artiste et le spectateur se sentent à l'étroit. Ainsi accepte-t-il la commande de la décoration de la Fondation Barnes parce que les arcades des 3 fenêtres à décorer sont désagréablement surbaissées. Il propose à son ami Théria de décorer sa salle à manger parce qu'elle est la plus petite du monde et se plaît à décorer la chapelle de Vence parce qu'elle est grande comme un mouchoir de poche. Et je serais tenté de penser que c'est parce que la gravure n'offre que des surfaces étroites, ce qui avait contraint les graveurs du Nord du 15e et 16e siècle à bourrer leurs planches de foules festives ou batailleuses, qu'ils s'y sentent à l'aise. Cette obsession de l'espace, ce besoin de grandir l'espace jusque dans les moindres détails, ainsi demande-t-il à l'imprimeur qui lui a envoyé les épreuves d'un de ses livres de mettre plus d'air entre les caractères. Ce besoin d'agrandir répond non seulement à des préoccupations esthétiques ou philosophiques, mais aussi et peut-être surtout à l'existence du peintre dont le corps a vécu de longues périodes de confinement et d'étouffement. Adolescent, une appendicite qu'à l'époque, si je ne me trompe, on n'opérait pas, le tient pendant des semaines cloué à un lit d'hôpital, accablé par un ennui que sa mère chercherait à alléger en lui offrant des crayons et des pinceaux, et c'est ainsi qu'il découvre la peinture. D'ailleurs, il y a une similarité avec ce que sera le cas de Saint Francis à une autre époque. En 1941, à Lyon, il subit une lourde opération intestinale qui l'obligera à porter en permanence un corset métallique et qui ne lui permettra de quitter sa couche pour travailler assis que quelques heures par jour. Au sortir de l'opération de Lyon, un rêve lui avait prédit ce destin. Il s'y était vu coincé dans un cercueil et étouffant. C'est en parcourant la production graphique de Matisse, ses dessins, ses estampes, qu'on mesure le milieu, l'évolution de l'espace par rapport aux figures. Le blanc de l'espace ne cesse de gagner du terrain sur le noir des figures, que ce soit dans chaque planche ou dans l'évolution de leur confrontation au fil du temps. Si la gravure prend dans l'œuvre de Matisse une place de plus en plus importante, c'est parce qu'elle rend le conflit entre figures et fonds plus lisible que ne le fait la peinture, ni même le dessin. En effet, elle seule lui permet de sérialiser les rapports changeants des œuvres dont Matisse ne pouvait garder mémoire qu'en photographiant des états successifs de tableaux effacés et repris au fur et à mesure de leur exécution. À Matisse que la photographie passionne, comprend que la gravure est capable de restituer ces rapports plus efficacement encore que la photographie. Je pense aux neuroses, évidemment, où il a fait cela, le neurose de Baltimore. Alors que la présence ininterrompue de l'artiste lui permet, s'il grave, et au spectateur comme à lui, de suivre les péripéties du conflit. Matisse pensait-il que la caméra pouvait plus efficacement rendre compte de la temporalité de ses dessins et estampes, rendre compte de la temporalité de ses dessins et estampes, évoquant certaines suites de dessins qu'il vient de finir, il les définit comme une sorte de cinéma perpétuel. Ces figures des êtres humains, il citait volontiers ce mot de Rembrandt, « Je ne fais que des portraits », en se limitant, rappelons-le, à la ligne et au trait, à l'encre noire. C'est ce qu'il vise, en effet, parce que le portrait exige la ressemblance et que la ressemblance que le peintre a su se faire comprendre. Il y a sens. Pourquoi un portrait plutôt qu'une pomme ? Parce que la reconnaissance d'un individu est plus ardue que celle d'un spécimen, un sample pomme, donc plus convaincante. Dans toute œuvre, il y a preuve plus éclatante de transmissibilité du sens en peinture que le portrait, où l'on reconnaît Madame Vigné, qui est à ma droite, alors que sa petite fille est à gauche, mais il n'a pas, lui, utilisé la mère comme modèle. Il a tiré l'œuvre de sa petite fille qu'il a, elle, dessinée. Quelle plus éclatante preuve de transmissibilité du sens en peinture peut-on trouver que celui-ci ? Mais c'est sans compter sur l'autre acteur de l'œuvre, le fond, en l'occurrence le blanc, le vide, l'espace, que l'artiste aspire à agrandir, à élargir et surtout, dirais-je, à approfondir, puisque la gravure ne fait que reprendre le couple, figure finie sur fond infini, du fond abyssal paléochrétien ressuscité par Matisse dans ses grands tableaux, les grandes œuvres des années 1906-1918. Ce vide s'attaque au réseau linéaire dont se compose le corps ou le visage des figures. Il rompt les contours, distant les lignes qui se croisent. Dans les séries plus ou moins longues de ces portraits, l'espace efface peu à peu les visages, n'en laissant subsister qu'un front, des yeux ou seulement un regard. Les profils, d'ailleurs, résistent mieux que les autres postures. Deux ou trois traits suffisent pour que soit identifiée la personne croquée. Les caricaturistes le savent bien, et Matisse, qui s'est fait quelques dessins durant auto-caricaturiste, lorsqu'il s'en prend à lui-même, chaque suppression, chaque abstraction intensifie la présence des éléments qui survivent. Certains de ces survivants sont d'une intensité qui rappelle un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Mallarmé, Mallarmé dont il a illustré les poésies. Une fois déchaîné, le fond est difficile à arrêter. D'ailleurs, Matisse y tient-il. Il multiplie les séries où l'on voit la figure se dissoudre, la chevelure du modèle se défaire, par exemple, n'être plus qu'un écheveau de lignes dont le sens se perd, et ne laissant subsister qu'un débris défiant l'identification, voué à la récupération par un autre thème ou à la disparition successive. L'éternel conflit de la couleur et du dessin, qui avait éclaté au temps de Luxe calme et volupté, s'était calmé, sinon éteint, avec la révélation de l'Orient, par quoi Matisse entendait sa découverte de l'art islamique. Entre l'espace perspectif passé de mode et l'espace abyssal et son infini intensif par trop extrême, l'espace, c'est celui par exemple de Giacometti, l'espace islamique dit décoratif était venu intercaler le moyen terme de son infini extensif, provoquant une accalmie qui ne pouvait à long terme contenter Matisse. De fait, son besoin de faire deux choses incompatibles en même temps s'était, me semble-t-il, reporté sur le dessin et plus encore sur la gravure. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Matisse a recours à un médium mineur pour relancer son médium prédominant. Ainsi, il se tourne vers la sculpture au cours des années 20 pour redonner plus de poids, plus d'épaisseur à une peinture qu'il considère comme adoucie et un peu aplatie. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir procédé de la sorte. Seurat a sans cesse fait la navette entre la peinture et le dessin pour relancer l'une par l'autre lorsqu'elle était fléchissante. Mais s'agissant de la gravure, navette n'est pas seulement une métaphore. L'usage varié que Matisse fait de la sérialité dans ce domaine en est la preuve. J'ai cité le cas mallarméen, celui du choc des extrêmes, portrait réaliste et vide, infini. En voici un autre qu'on pourrait qualifier de baudelairien, du Baudelaire qui a une passante, les antinomiques se croisent, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté. Ici figure, moins en moins détaillée et abstraction croissante se rejoignent, l'espace émouvant d'un instant dont une image témoigne. Croisement unique, comme par exemple Nadia mélancolique, ou navette, c'est-à-dire aller-retour sans fin, parce que chacun renvoie à l'autre, comme les yeux s'ouvrent et se ferment pour constituer le regard. Figure réaliste et figure absolue, intensif et infini extensif, ne se croisent qu'en un point, ou plus exactement sur un axe. Le talent consiste à les concevoir, le génie à les faire se croiser. Mais jamais Matisse graveur ne cherche à masquer l'insolvabilité de la tentative de concilier le portrait réaliste et le visage spirituel. Pour attirer l'attention sur cette grandiose tentative, Matisse les qualifie de masques. Ils sont nombreux. Parmi ces masques, on rencontre des portraits de membres de sa famille. Or, ces portraits diffèrent très peu des masques. Tout juste, les versions masques sont-elles plus frontales, plus symétriques que les dessins descriptifs? Mais peut-être Matisse pensait-il à Quentin de la Tour, son pays, qui avait légué à sa ville natale, Arras, les esquisses très vraies des portraits de courtisans débauchés par lui, dont les versions achevées perdaient une bonne partie de leur vérité. Quentin de la Tour appelait ces esquisses que Matisse aimait, comme Gauguin d'ailleurs, des masques. Mais il y a une autre source à l'intérêt porté aux masques par Matisse. Après la guerre, Marguerite Dutuy avait fait parvenir à son père un ouvrage consacré par son époux Georges Dutuy aux Esquimaux pour lui demander de l'illustrer en y joignant quelques publications concernant cette civilisation. Les photographies qui étaient reproduites avaient passionné l'artiste. Plus encore, peut-être, ont dû le frapper les récits de ces trips qui transfiguraient les chamans de leur état ordinaire en visionnaires. Matisse semble avoir trouvé en ces séances des équivalents et donc des justifications de ces séances de travail qui transformaient les portraits en visions et dont il disait « je ne conduis pas, je suis conduit ». Conduit par le besoin de simplification et par le désir absolu, au point que du visage réaliste et reconnaissable d'une jeune fille qui pose ne subsiste plus rien, si ce n'est le tracé, un ovale ovide, dont nul ne saurait douter qu'il représente la Vierge, tant les traits du modèle effacés, l'instant d'avant, subsiste dans notre mémoire, je pense que vous en avez fait l'épreuve il y a quelques instants. L'extrême appelle et provoque une réaction extrême elle aussi. Elle sera discrète en peinture, héroïque en gravure, une vingtaine, je crois, d'aquatintes entre 1948 et 1952, dont presque toutes représentent des têtes ou des visages. Et choisit l'aquatinte parce qu'elle permet de tracer des lignes épaisses et souples pour donner à l'amateur l'impression qu'elles ont été brossées par un instrument réservé à la peinture, le pinceau. Ainsi, les premières estampes de Matisse étaient parties de la peinture, les dernières y reviennent. Point de couleur à une exception près, mais elle s'inspire d'un tableau de 1947. Mais on dirait que Matisse cherche à démontrer que, contrairement à ce que prétendait Monet, le noir aussi est une couleur. Les hommes et les femmes, souvent jeunes, qui figurent dans ces aquatintes, tiennent tantôt du masque, tantôt du visage. Mais surtout, il arrive, plus souvent qu'auparavant, que ces extrêmes se joignent, que la rigidité solennelle des masques soit effleurée et trouble par un brin de mélancolie ou l'ombre d'un sourire. On comprend. Alors que l'artiste a atteint la phase extrême où les aspirations conflictuelles qui le tourmentèrent toute sa vie sont en passe de se résoudre et qu'il est possible de formuler cet aboutissement. Et je suis à la preuve de cela pour moi. De 52 à 54, Matisse travaille à un immense gouache découpé, la grande décoration au masque, dont il dira à son fils Pierre, je crois vraiment même que c'est mon chef-d'œuvre. Je vous épargnerai la raison de cela. Je voudrais simplement donc vous citer pourquoi il la considère comme son chef-d'œuvre. Tous les conflits vécus par l'artiste au long de sa vie créatrice, couleur, dessin, tâche, contour, réalisme, abstraction, perspective, planéité, Occident, Orient, tous ces inconciliables semblent avoir été rassemblés par Matisse dans la grande décoration au masque pour s'y réconcilier et ainsi mettre un terme à ce que Gertrude Stein considérait très justement comme la clé de la création matissienne. Toujours cette lutte. À l'interlocutrice déjà citée, Maria Luce, Matisse soulignait qu'il était, malgré le dernier siècle écoulé depuis ses vrais débuts, en 1905, resté le même. Mais, à l'instant précis où il affirme à sa visiteuse que depuis un demi-siècle il est resté le même, il ne l'est plus, puisque dans la grande décoration au masque, tous les antinomiques se réconcilient. Une force plus grande qu'elle a pris possession de Matisse, et il le ressent à travers cette œuvre. Matisse sait bien quelle est cette force, mais il est discret, il n'en dit rien, du moins rien directement. Mais un dessin des dernières années montre deux jeunes filles penchées sur un livre ouvert sur lequel on peut lire en grandes lettres majuscules le mot « mort ». Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Pierre Schneider et Dominique Simusiak sur la seconde vie de Matisse. Vous avez pu écouter auparavant les propos de Bernard Le Chevalier et Jean-Louis Michaud qui évoquaient les derniers moments de création de Béla Bartok. Poursuivez l'écoute de ces conférences consacrées à l'œuvre ultime en téléchargeant dès maintenant les interventions consacrées aux dernières œuvres de Nicolas Poussin, du Titien, de Koenig, d'Artung ou encore de Molière dans sa dernière représentation du Malade imaginaire. Retrouvez également une précédente conférence consacrée à Bartok, toujours en compagnie de Jean-Louis Michaud, sur notre site canalacademy.com. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.